Atelier des médias, troisième partie. L'autre actu, c'est celle des blogs et des blogueurs dans Mondo Blog. Et à l'occasion de la rentrée des classes, on va parler de l'utilisation des blogs dans l'enseignement. Rendez-vous ensuite avec Francis Pisani qui nous dira que les produits et services innovants que nous utilisons sur le net sont loin d'être parfaits, mais que l'enjeu n'est pas là. Ce sera dans un quart d'heure.
RFI.
Atelier des médias.
Cédric Calongi.
Philippe Couve. Mondo Blog. Des blogs et des blogueurs.
Mondo Blog, c'est l'actualité des blogs et des blogueurs francophones et tous les trucs des meilleurs blogueurs chaque semaine. Mondo Blog dans l'atelier des médias avec Cédric Calongi. Bonjour Cédric.
Bonjour Philippe.
Cédric qui a survécu à un été passé dans le Jura et qui est avec nous de retour dans ce studio. On écoute d'abord ce qui a retenu ton attention sur les blogs cette semaine en commençant dans l'espace, une fois n'est pas coutume.
L'astronaute José Hernandez qui est en ce moment en orbite autour de la Terre dans le cadre d'une mission de la navette spatiale vers la station spatiale internationale. Il envoie des tweets tout au long de sa mission, donc tout ce qui se passe, les choses vues, les difficultés techniques. Cet astronaute qui est fils d'immigré mexicain se fixe l'objectif de tout partager sur son compte Twitter. Pour ceux que l'espace intéresse, c'est une occasion de suivre en direct ce périple.
On retrouvera les coordonnées de ce compte Twitter sur le site de l'atelier des médias. Combien de personnes suivent ces mises à jour?
Je regardais tout à l'heure, il y a environ 30 000 personnes en ce moment.
Toujours sur Twitter, après les blogs, des services proposant de gagner de l'argent avec son activité sur le web sont en train de voir le jour.
Mais après le blog, Philippe, les tweets permettent de gagner de l'argent. Il y a un site qui s'appelle Revenue Tweet qui propose à ses utilisateurs de gagner de l'argent en publiant des messages renvoyant à des liens publicitaires.
Je ne sais pas si on peut le conseiller absolument. C'est une forme de spam un petit peu en quelque sorte. Toujours du côté du micro-blogging, des choses se passent en Arabie Saoudite.
La commission sur les technologies de l'information et de la communication qui a récemment bloqué l'accès sur Internet à deux comptes Twitter. Cette censure intervient dans le contexte du rôle joué par Twitter dans les manifestations provoquées par les résultats de l'élection présidentielle en Iran.
Pour toutes ces infos, des liens complémentaires sur le site de l'Atelier des médias.
RF.
Digital journalism.
D'un seul geste, je publie ma petite chronique locale et je deviens mon petit média.
L'Atelier des médias. Cédric Calongi. Philippe Couve. Mondo Blog.
C'est la rentrée scolaire en ce moment dans beaucoup de pays. L'occasion pour nous de nous pencher sur le rôle que peuvent avoir les blogs dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Cédric, tu as réuni trois blogueurs cette semaine qui sont en ligne avec nous. Je commence avec Christelle Membret qui est membre de l'Atelier des médias qui est en ligne avec nous depuis la Bourgogne, la Saône-et-Loire précisément. Bonjour Christelle Membret.
Bonjour, enchantée.
Alors votre blog, il est intitulé « On ne naît pas internaute, on le devient », un blog que vous tenez avec vos élèves. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche, comment vous utilisez ce blog ?
Oui, c'est un projet scolaire soutenu par l'Éducation nationale pour la cinquième année qui permet à mes élèves, qui sont de jeunes collégiens âgés de 11 à 15 ans, et à moi-même, d'effectuer une veille sur le média Internet, de faire le point sur ce que nous savons au sujet de ce média, qui est très riche, qui est très dense, d'évoquer les dangers potentiels mais aussi les richesses et de publier ensuite le fruit de nos réflexions sur un espace qui se veut scolaire mais aussi pédagogique et destiné à toute personne qui se pose des questions sur ce média.
Lorsqu'on discute avec les enseignants, on a souvent en retour sur la question d'Internet beaucoup de réticence, de peur, d'absence de contrôle. Cette peur-là existe chez les enseignants. Vous, qu'est-ce que vous diriez à vos confrères et vos consoeurs? C'est une bonne chose d'aller sur Internet? Il faut prendre des précautions ou il y a des risques? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Internet est un outil professionnel pour de très nombreuses personnes, qu'elles soient enseignantes ou non d'ailleurs aujourd'hui. Il est quasiment incontournable dans certaines actions quotidiennes. Donc oui, c'est un outil indispensable. Qu'ajouter, il me semble qu'on pourrait dire qu'Internet va permettre aux enseignants qui l'utilisent d'accompagner les élèves dans leur utilisation de ce média et leur permettre de construire leur citoyenneté aussi sur la toile, puisque de la même façon qu'on construit entre guillemets un élève dans son quotidien scolaire, on l'accompagne aussi sur la toile en mettant toutes ses actions pédagogiques, entre autres, sur la toile.
Avec nous en ligne également Cathy Bernot, bonjour.
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 Cathy, que nous présente Cédric Calongi.
Cathy tient un blog qui s'appelle Champagne Balade. C'est un blog qui parle justement d'éducation avec une classe et toutes ses activités. Et donc, en cherchant sur Internet, parmi les enseignants ou ceux qui travaillaient dans ce domaine-là et qui publiaient sur Internet, je suis tombé sur son blog, je l'ai invité et elle a bien accepté d'être avec nous aujourd'hui.
Comment est née l'idée de ce blog, Cathy Bernot ?
En fait, moi, c'est un petit peu particulier. J'ai décidé de faire un blog le jour où j'ai décidé de me reconvertir professionnellement. J'ai enseigné pendant 20 ans, beaucoup en maternelle. Et j'avais des tas de ressources accumulées et donc plutôt que de les remiser au grenier, j'ai décidé de les mettre en ligne et j'ai été très très surprise du résultat. C'était au départ pour garder un lien avec ces années de pratique d'enseignement et les visites étaient là, quoi. Donc il y avait une réelle demande.
Cédric,
vous avez des photos, vous avez des dessins que vous proposez sur votre blog. Qui s'intéresse et qui sont vos visiteurs, si vous le savez ?
Mon blog éducation, c'est vraiment destiné aux enseignants de tout petit. En fait, si j'ai créé le blog, c'est parce que j'ai dû créer les exercices moi-même. Je ne les avais pas trouvés en tant qu'enseignante sur la toile. Donc, il y avait vraiment, un manque à ce niveau-là. Et étant l'auteur de ces exercices et ressources pédagogiques, j'ai décidé de les mettre en ligne et de les partager.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enseignants qui laissent des commentaires sur votre blog ?
En fait, j'ai beaucoup de retours d'enseignants débutants ou alors d'enseignants qui ont enseigné pendant longtemps auprès d'élèves plus âgés et qui se retrouvent projetés en toute petite section. Et en général, les retours sont très positifs parce que je reste vraiment dans le pratique et le pragmatique. Il y a d'autres sites qui parlent très bien de pédagogie. Moi, je reste vraiment dans le dépannage pratique pour le prof qui est nommé en remplacement en dernière minute, pour l'enseignant qui débute. Et à ce niveau-là, j'ai vraiment des remerciements qui font plaisir et qui motivent, quoi.
En ligne, avec nous également, un prof de fac. Prof de fac, c'est d'ailleurs le pseudo que vous utilisez sur votre blog. Bonjour, prof de fac.
Bonjour. En fait, en général, je signe les articles « Aime le prof ».
Votre blog est donc anonyme, on l'a compris. Ça veut dire qu'il n'est pas destiné particulièrement à vos étudiants.
Tout à fait. Donc, par rapport aux deux autres intervenants, je ne suis pas du tout dans la même optique d'apprentissage collaboratif avec mes étudiants. Il s'agit davantage d'un blog qui est à l'intention de tous les étudiants, mais aussi de tous les collègues, on va dire, quelle que soit leur discipline. Et c'est aussi pour ça que je tiens un peu à en dire le moins possible sur moi, sur le blog, en tout cas sur mon identité, parce que si je disais une discipline, un lieu ou quelque chose comme ça, ça contextualiserait énormément le discours. Et certains pourraient être freinés par le fait qu'on n'est pas de la même discipline ou de la même région ou d'une université de taille qui n'est pas comparable, alors que justement il y a beaucoup de choses qui sont communes et je veux parler vraiment de ce tronc commun sur le blog.
Et ce dont vous parlez notamment, c'est un peu les réflexions, on se met un peu dans la tête du prof, les réflexions ou aussi les coulisses de ce métier, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Donc, par rapport à des collègues qui ont des blogs sur leurs recherches, véritablement, je pense à Olivier Scheid ou Baptiste Coulmont, des gens comme ça, moi, c'est davantage, effectivement, presque du journal intime, à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un enseignant-chercheur, quoi, et quels sont les problèmes ou les joies qu'on a tous les jours à travers de petites anecdotes ou des choses pratiques, quoi, qui répondent à des questions qu'on me pose souvent, soit de la part des étudiants lors de salons, soit mes collègues qui m'appellent parfois pour savoir comment j'ai réussi à avoir une mutation, par exemple, des choses comme ça. Donc toutes ces questions qui reviennent, qui sont des questions d'ordre très général, ben c'est à ces questions-là que je réponds à travers cette espèce de journal que peut représenter le blog.
Quels sont les sujets qui suscitent le plus de commentaires ?
Alors, il y a deux types, en fait, de lecteurs, je pense. Il y a un vrai lectorat d'enseignants-chercheurs qui est attentif à tous les billets qui concernent véritablement l'université dans son fonctionnement, c'est-à-dire comment fonctionne une commission de spécialistes ou maintenant un comité de sélection.
La cuisine interne, quoi.
Voilà, comment on obtient une mutation, quelles sont toutes les pérégrinations, on va dire, par lesquelles il faut passer pour obtenir le premier poste de maître de conférence ou ensuite devenir professeur des universités. Enfin, voilà. Là, j'ai beaucoup de commentaires de la part de la communauté en général. Les gens qui signent sont eux-mêmes souvent soit doctorants, soit enseignants-chercheurs. Et puis après, il y a la partie on va dire, vie avec des étudiants, donc soit des anecdotes que j'ai d'étudiants qui font des choses parfois un peu extraordinaires, soit moi, dans mes rapports avec les étudiants, à quoi j'ai été confronté, parce que parfois il y a des situations assez délicates. Là, par contre, j'ai un lectorat qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus féminin, j'ai l'impression aussi.
Alors, question, est-ce que aujourd'hui le blog est un outil utile et voire indispensable dans une pratique pédagogique? Christelle Membret, votre point de vue?
Alors, c'est un outil qui permet de conserver la mémoire de ce qui a été fait dans une salle de classe. Par exemple, j'ai créé un blog il y a 2 ans autour du XVIIe siècle et les élèves et moi-même partions sur les traces de Louis XIV. Et ce blog a pu être reconsulté par d'autres classes les années, les trimestres suivants. Donc il a permis de constituer ce qu'on pourrait appeler une base de données. Donc en ce sens, cette mémoire-là est très intéressante. Et puis il y a aussi un point qui était évoqué, c'est le fait aussi que ce blog pédagogique apporte quelque chose pour les élèves, mais apporte aussi quelque chose pour l'enseignant, puisqu'il donne à voir une partie du travail de la classe et va permettre d'engager le dialogue d'une façon différente. Donc c'est une façon de pouvoir travailler avec certains élèves qui ne se seraient peut-être pas autant investis sur un projet particulier. Certains vont oser prendre leur plume électronique et vous poser des questions très précises qu'ils n'oseraient pas émettre dans une salle de classe. Ça ne fonctionne pas avec tous les élèves, mais ça fait partie des outils pédagogiques multiples qu'on peut utiliser pour dynamiser un enseignement.
Cathy Bernot, votre point de vue aujourd'hui, c'est utile voire indispensable un blog dans une pratique pédagogique ?
Oui, je pense, et enfin, moi je ne peux que me situer au niveau des enseignants puisque mon blog s'adresse à des élèves trop jeunes pour surfer. Et je pense que c'est d'autant plus indispensable pour les enseignants qui sont isolés à la campagne en particulier, ou qui sont isolés dans des endroits qui ont difficilement accès à des documents pédagogiques. Et c'est vraiment une ouverture sur le monde, sur des documents, sur des ressources facilement accessibles, gratuites, et un vrai renouvellement dans la pratique. Moi, j'y ai trouvé ça en tant qu'enseignante. J'y ai trouvé vraiment cette bouffée d'oxygène quand je me suis exilée à la campagne après avoir vécu en ville. Et j'espère que d'autres le trouvent aussi.
Merci à tous les trois. On retrouve les liens vers chacun de vos blogs sur le site de l'Atelier des médias.
Ça suffit, Internet Stan. Tu dois aller dormir.
5 minutes, il y a encore des trucs à faire.
Chérie, déconnecte Internet et va te coucher. Oh, Andy, tu peux te déconnecter.
Mais Sharon, je dois envoyer un email à
l'Atelier des médias.
Stan, j'ai besoin de ton ordinateur.
Papa, il y a Internet qui veut plus marcher.
On n'a plus Internet. On n'a plus rien.
Comment on faisait pour avoir des infos avant qu'il y ait Internet?
Atelier@rfi.fr.
Clic, 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 clic. Très bien, Internet. Qu'attendez-vous de nous?
On termine avec les conseils de Cédric Kalondji, des conseils d'experts comme chaque semaine. Question du jour, comment gérer son temps?
C'est une question qui revient assez souvent, Philippe, parce que bloguer étant une activité lucrative pour quelques rares privilégiés, il est fréquent que la plupart de ceux qui prennent le temps de publier sur Internet le fassent à titre complémentaire. La gestion du temps passé sur son blog est donc une question récurrente et très importante.
Quelques conseils pratiques pour la gestion de son temps. Conseil numéro 1, Cédric.
En premier lieu, avoir une thématique bien appropriée. Le choix se fait au départ, au lancement de son blog. C'est beaucoup plus facile de rédiger des articles sur un thème que l'on maîtrise très bien. Il y a le temps de recherche et le temps de documentation en est ainsi réduit.
Conseil numéro 2.
Il vaut mieux exploiter des sujets vécus ou des situations rencontrées récemment. J'ai pris le RERC, il était en retard, je préfère en parler, c'est chaud, c'est tout de suite, ça me prend pas beaucoup de temps d'en parler. Et puis les idées restent plus claires. La fraîcheur des faits réduit aussi le temps de rédaction. Et puis si les thèmes exploités font partie du travail ou du vécu quotidien, les temps de recherche documentaire, comme je disais tout à l'heure, en est que réduit.
Conseil numéro 3.
Autre détail qui peut sembler superflu mais intéressant et bénéfique, c'est l'usage des technologies grand public pour bloguer. Je parle là d'un exemple de plateforme qu'on peut choisir. Personnellement, j'utilise WordPress pour un hébergement payant et cela me permet d'éviter le travail de maintenance. La communauté WordPress s'occupe des mises à jour et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est télécharger les mises à jour et les installer.
Conseil numéro 4.
Autre astuce intéressante, Philippe, écrire ses articles à l'avance. Le jour où on a plus de temps, on peut en écrire plusieurs et puis les garder. La plupart des plateformes de blog proposent la possibilité de publier en différé. Et ça permet donc, le jour où on a plus de temps, de faire plein de contenu, de produire plein de contenu. Et le jour où on a moins de temps, on prend 2 minutes pour juste publier.
Merci Cédric pour tous ces conseils. On se retrouve la semaine prochaine dans Mondoblog. Et tout de suite, on rejoint un autre expert à San Francisco. J'ai nommé Francis Pizet.
Quand on veut dire ce qu'on a à dire, il n'y a plus de télévision. Et si c'est moi qui dis ce que j'ai envie de dire, plus personne ne veut me donner la parole.
Bonjour Francis Pizani.
Bonjour Philippe Cour.
On se retrouve en ligne de San Francisco comme chaque semaine et tu vas nous parler aujourd'hui d'un article que vient de publier la fameuse revue, fameuse en tout cas pour les experts des nouvelles technologies Wired, qui se penche sur une nouvelle tendance importante dans l'électronique et dans l'informatique. De quoi s'agit-il, Francis ?
L'expression utilisée par Robert Capps, l'auteur de l'article, pour caractériser la tendance en question est difficile à traduire. Il parle d'objets ou de programmes de qualité good enough ou suffisant. Je préfère parler de la tendance pas mal, mais je reconnais que tout est dans le ton. Il s'agit de produits qui ne sont pas géniaux, mais dont nous nous satisfaisons parce qu'ils sont bon marché et qu'ils font assez bien ce qu'ils font. Il donne plusieurs exemples, dont celui des caméras flip. Ultra simples, elles permettent de prendre jusqu'à 2 heures de vidéo et de la télécharger en un tour de main grâce à une clé USB intégrée dans l'appareil. La qualité n'est pas suffisante pour gagner un Oscar, mais elles valent moins de $200 et en 2 ans, elles ont gagné 17% du marché américain des caméscopes. L'auteur étend l'idée ensuite aux blogs, qui sont plus rapides et moins chers que les journaux, et aux netbooks, ces ordinateurs à 3 sous, je veux dire à moins de 400 euros, qui sont suffisants pour naviguer sur le web et envoyer des courriels.
Ce good enough, ce assez bon, ça veut dire qu'on renonce finalement à la véritable qualité ?
Nous n'y renonçons pas, mais nous faisons intervenir d'autres valeurs, telles que par exemple la commodité et le prix. Disons qu'elle avance masquée. Au début, par exemple, la sonorité des MP3 était moins bonne que celle des CD, mais on pouvait en avoir des milliers dans nos iPods et les faire circuler sur l'Internet. La nouvelle technologie a fini par s'imposer, puis par gagner en qualité. Skype, qui est un autre exemple, est généralement moins performant que le téléphone traditionnel, mais il a vite permis d'avoir des vidéoconférences et les coûts sont eux aussi imbattables.
Est-ce que cette notion de suffisamment bon pour mes besoins, ça n'existe pas depuis toujours, Francis ?
Écoute, en temps de crise, il est utile de se rappeler que nous n'avons pas toujours besoin de ce qu'il y a de plus sophistiqué, et ça, c'est une vieille réaction. Un des lecteurs de mon blog dit par exemple « Je me contente de ma bagnole qui a 10 ans, elle est good enough pour ma vie de tous les jours ». C'est une bonne gestion de l'économie familiale, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'innovation. Or, c'est de cela qu'il s'agit. Clay Shirky, un de mes analystes préférés, a déclaré récemment qu'il ne faut pas croire au mythe de la qualité et que les entreprises qui misent là-dessus se gourrent, surtout au démarrage. Ce qui est très intéressant par contre, c'est qu'on rejoint la théorie des technologies perturbatrices. Elles commencent toujours par pénétrer un marché alors qu'elles ont moins de qualité que celles qui dominent. La différence, c'est qu'elles coûtent moins cher et qu'elles ont des fonctionnalités que la technologie dominante du moment n'a pas. Mais je reviens au fond, ce que cet article m'a aidé à comprendre, c'est l'intérêt des technologies simples et bon marché qui nous permettent d'explorer des territoires nouveaux. Je n'aurais jamais imaginé, par exemple, l'importance de voir mon interlocuteur ou mon interlocutrice quand je lui parle, et je n'aurais sûrement jamais essayé au prix pratiqué par les grands opérateurs téléphoniques. Alors, vive les technologies good enough, surtout pour commencer.
Merci Francis Pizani. Francis qui chronique quotidiennement les évolutions révolutions de la société numérique sur le blog Transnet. Transnet au pluriel. À la semaine prochaine Francis.
À la semaine prochaine Philippe.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 92 de l'Atelier des médias, proposée par Philippe Couve et Simon Decreuse avec Thomas Ferrière à la technique. Rendez-vous sur notre site pour les bonus, les versions intégrales et tout le reste. Et puis, on attend maintenant vos commentaires sur notre site parce que quand c'est fini ici, ça continue sur le web. Vous tapez Atelier des médias dans votre moteur de recherche et vous arrivez chez nous. Salut à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini ?
Ah ouais ?
Les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.